Question d'Islam par Al Ben Sheikh. Dans cette émission intitulée Question d'Islam, nous allons parler d'Islam. C'est une tautologie et en plus, aujourd'hui, nous parlons de l'Islam. Quel problème ? Ça aurait pu être au singulier, c'est aussi au pluriel. Avec Razika Adnani. Razika Adnani, bonjour.
Bonjour Alap.
Bonjour, merci d'être venue à l'émission. Nous parler d'une de vos dernières productions qui est l'Islam, quel problème ? Et puis vous ajoutez en sous-titre les défis de la réforme. Vous êtes philosophe, vous êtes islamologue. Alors l'islamologue est celui qui tient un discours rationnel sur le fait islamique. Et c'est ce que vous faites. Vous êtes aussi membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. Je vous pose la question. Vous avez essayé, vous avez donné même les réponses dans votre ouvrage. Y a-t-il un problème avec la religion islamique, Razika Adnani?
Je pense, Ralab, que nul n'ignore aujourd'hui que les musulmans et l'islam vivent une époque ou une étape de leur histoire qui est difficile. Donc, cette difficulté vient sûrement d'un problème.
D'un ou deux problèmes au pluriel?
Des problèmes, mais d'un problème peut-être fondamental. Parce que dans ce livre, si j'essaye d'exposer pas mal de problèmes, mais à la fin, je les ramène tous à un problème fondamental ou à deux questions fondamentales ou deux questions principales. Pour moi, c'est de là que viennent tous ces problèmes. Donc, j'ai été donc au fond pour diagnostiquer le vrai problème, car pour moi, si on n'arrive pas à diagnostiquer ce vrai problème, on n'arrivera pas à le résoudre. Donc, toutes les autres solutions ne seront que secondaires, mais ne toucheront pas le problème du fond.
Tel un médecin, s'il n'y a pas un bon diagnostic, il n'y aura pas une bonne médication.
Exactement.
Et donc ces deux points fondamentaux, ou les deux questions principales pour vous, sont lesquelles? La première, c'est celle de la pensée.
Pour moi, la première question est une question épistémologique. En effet, elle concerne la question de la pensée face à la révélation comme source de connaissance. Donc, toutes les autres problématiques, soit elles sont engendrées par cette question, soit elles sont abordées d'une manière ou d'une autre, selon la position de chacun par rapport à cette question principale, qui est celle de la pensée. Et pour moi, aussi, la réforme doit commencer justement par cette question de la pensée et la place qu'on donne justement à la pensée comme source de connaissance.
Razika Adnani, si je vous comprends, donc c'est la problématique entre la spéculation réflexive, la raison, la pensée autre que théologique, philosophique, et le lien avec la révélation. Est-ce que on soumet la raison à la révélation ou est-ce que la révélation et la raison sont dans des registres autonomes?
C'est la question de la pensée, surtout la pensée créatrice, la pensée rationnelle évidemment. Et quelle place doit-on leur donner ou leur reconnaître dans le domaine de la connaissance, mais la connaissance qui est liée à la religion, c'est-à-dire la connaissance dans le domaine théologique, dans le domaine exégétique, dans le domaine juridique et même dans le domaine méthodologique, car les musulmans ont pensé aussi à des méthodes dans leur travail. Donc c'est toute cette pensée rationnelle et créatrice et quelle est sa place ou quelle place doit-on lui donner. Et pour moi, la question principale sur laquelle se fonde la pensée musulmane.
Entendu. Et le second point, alors?
Le second point, c'est la nature de l'islam lui-même. Quelle définition doit-on donner à l'islam? Qu'est-ce que l'islam réellement? L'islam est-il une spiritualité ou une organisation sociale? Ça aussi, c'est une question très importante. Très importante parce qu'elle a influencé l'islam et ce qui est l'islam est devenu aujourd'hui. Donc, c'est une question importante. Elle reste aujourd'hui encore importante. Donc, ce sont pour moi les deux questions principales de la pensée musulmane, même si la question de la pensée, la question épistémologique, reste la question fondamentale, celle qui influence toute la pensée musulmane.
On aura à y revenir. Permettez-moi simplement pour le second point de vous dire, Vous ne pensez pas qu'en dépit de tout, en dépit de ces convulsions paroxystiques, il y a un mouvement inéluctable de la sécularisation qui touche y compris ces sociétés musulmanes et donc de ce fait, la religion islamique ne se veut plus un système totalisant, global et aussi une organisation sociale. Je parle à terme.
Je pense que le projet de la sécularisation des sociétés musulmanes a commencé il y a déjà un siècle et quelques. Hein. Il a commencé déjà à la fin du 19e siècle. Certains intellectuels et hommes politiques ont œuvré dans ce sens jusqu'à la deuxième moitié du 20e siècle. Mais ce projet a été avorté donc par le mouvement des conservateurs qui ont réagi donc très vite et ont réagi d'une manière forte pour avorter donc ce projet de modernisation des sociétés musulmanes. Aujourd'hui, est-ce que ce projet a repris? Est-ce que les musulmans sont dans cette perspective? Je pense que il y a beaucoup de débats en ce moment qu'on entend au sujet de la modernisation des sociétés musulmanes, de la réforme de l'islam, de la sécularisation des sociétés musulmanes. Mais je pense que tant que cela n'a pas donné de fruits dans la réalité, je pense que ce n'est pas encore fait. Ça reste un projet.
Ou peut-être en gestation.
En gestation, oui, je dirais oui. Parce que je pense que dans tout projet, c'est le politique, mais pas un peu de sa volonté aussi, pour que ce projet soit réalisé. Tout projet reste quand même, surtout quand il s'agit de la société, ne peut pas être réalisé, ne peut pas se concrétiser sans le travail du politique, sans la volonté du politique.
Donc tout cela est assujetti à cette volonté politique de démocratisation, d'ouverture et aussi d'éducation et de sensibilisation de l'opinion générale, l'opinion publique dans les sociétés musulmanes.
Il y a le travail des intellectuels qui doit se faire, c'est très important, mais après ce travail intellectuel, la volonté politique est un élément aussi très très important, qui est complémentaire au travail des intellectuels.
Alors, vous avez évoqué à juste raison la mission, l'ambition, le statut, le rôle de l'intellectuel, homme et femme, en contexte islamique et les intellectuels musulmans eux-mêmes. Revenons donc à ce qui, pour vous, est un point central, c'est celui de la pensée islamique, la pensée théologique, exégétique, juridique aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette pensée? Est-elle confinée, figée? A-t-elle une rationalité fermée? Ou, sans vouloir dire que vous étiez sévère, non sans raison d'ailleurs, vous parlez de défaite de cette pensée-là, comment voyez-vous les choses?
La pensée musulmane a connu une défaite, enfin pas la pensée musulmane, la pensée en tant que moyen de savoir a connu une défaite vers la fin du XIIe siècle, début XIIIe siècle. Elle a connu une deuxième défaite face à la révélation.
Pourquoi datez-vous par le fin du XIIe siècle? C'est la mort d'Averroès,
voilà,
par exemple?
Je situe la première partie de la pensée musulmane entre la date de la mort du prophète en 632 et la date de la mort d'Averroès en 1198, en effet. Donc la pensée, dans la pensée musulmane, en tant que source de connaissance, a connu une défaite face aux conservateurs, face à ceux qui prenaient l'idée que la seule source de connaissance pour les musulmans était la révélation. Elle a connu une deuxième défaite vers la fin du XXe siècle. En effet, aujourd'hui, je peux dire que même les réformateurs jusque-là sont restés un peu timides ou même parfois trop timides par rapport à la question de la pensée créatrice et la pensée rationnelle. Donc jusque-là, on n'a pas pu redonner à la pensée, à cette pensée qui crée de nouvelles idées, à cette pensée qui est capable d'être rationnelle. On n'a pas pu jusque-là, à partir donc de cette défaite qu'elle a connue, on n'a pas pu lui redonner ou lui reconnaître sa place, celle qu'elle mérite réellement.
Alors, Lazifa Adnani, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour avoir cette audace intellectuelle, cette hardiesse de la pensée? Qu'est-ce qu'il fallait pour dépasser cette timidité et cette frilosité dont vous parlez?
D'abord, reconnaître le rôle de la pensée, reconnaître le rôle de la raison et de la pensée d'une manière générale, même dans son rôle, même dans ce qui est devenu l'islam aujourd'hui.
Et ceci n'a pas été suffisamment reconnu par les réformistes.
Il n'a pas été suffisamment reconnu, car les réformistes, quand ils défendent la pensée, ils la défendent toujours en rappelant qu'il y a des limites à cette pensée. Donc ils terminent toujours leur discours avec « à condition que cette pensée ne dépasse pas certaines limites ». Donc ces limites, évidemment, limitent le travail de la pensée, donc elle n'arrive pas à retrouver sa place. Et je pense que même dans l'histoire de l'islam, le Coran a été révélé. Tout le travail après cela a été fait par la pensée humaine. Donc le rôle de la pensée dans l'islam lui-même, ce que l'islam est devenu aujourd'hui, est indiscutable. Donc aujourd'hui, avoir peur de cette pensée, comme si les premiers avaient le droit de l'utiliser, mais pas les musulmans les générations après cela. Comme si seuls les salafs avaient le droit d'utiliser leur pensée et de réfléchir.
Rappelons que les salafs seraient ou sont ces anciens considérés comme pieux, les pieux anciens. En vous écoutant, Razika Anani, la solution et la sortie de crise paraissent indiquées. Il suffit simplement de dire que la réflexion et la pensée ne doivent pas avoir de limites. On discutera de tout, y compris du statut de la révélation.
Je ne pense pas que c'est aussi facile que ça, parce que en face, il y a aussi ceux qui défendent la révélation. Ils ont aussi leurs arguments. Il faut aussi être capable de répondre à ces arguments, de les déconstruire. Et sinon, le travail ne peut pas se faire, parce qu'il y a deux positions qui s'affrontent au sujet de la source de connaissance. La révélation ou la pensée humaine peut-elle avoir une place ou pas? Les autres aussi se défendent. Ils ont donc leurs arguments et il faut pouvoir leur répondre.
Et là, vous affûtez vous-même ces arguments, d'autres le font. Et en ce qui concerne les fondements du droit et la norme juridique, parce que on dit souvent qu'il y a une obsession de la norme juridique et que la fabrique de la loi, en quelque sorte, doit être arrimée à la révélation ou à des principes transcendants. Et de ce point de vue-là, vous préconisez que les fondements du droit doivent être une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien des hommes.
En effet, et si dans le Coran, il y a certains versets qui évoquent certaines règles juridiques, les versets ne parlent pas tout seuls. Donc, ils ont besoin de commentateurs et les commentateurs présentent donc aux juristes leurs commentaires. Et les juristes utilisent ces commentaires dans leur travail pour extraire les lois juridiques. Donc il y a tout un travail qui a été fait par la pensée humaine qu'il faut tout simplement revoir.
Oui, vous avez évoqué cette parole de... Pardon, vous voulez poursuivre peut-être, Razika? Non, je voulais simplement dire, je fais un peu le pédant, que le calife Ali, le quatrième calife, qui disait « le Coran ne parle pas de lui-même, il est entre deux recueils, ce sont les hommes qui le font parler ». Donc de ce point de vue-là, les versets dits prescriptifs ou normatifs ou législatifs ne parlent pas d'eux-mêmes, ils nécessitent une compréhension et donc une interprétation de la part des juristes. Encore faut-il savoir les relativiser à leur contexte et donc ils ne sont qu'une jurisprudence à un moment donné de l'histoire pour des hommes qui connaissent une évolution qui passe de l'état tribal à un état de confédération.
Et peut-être tout le problème vient de là, c'est que le travail a été fait par des êtres humains, des commentateurs, des juristes, aussi des savants qui ont mis en place des méthodes de travail. Mais après, certains l'ont considéré ce travail comme c'était vraiment la parole divine en elle-même. Et c'est là où réside le problème. Donc, relativiser cette connaissance, relativiser tout ce travail qui a été fait est une chose aujourd'hui importante et nécessaire. Nécessaire dans le domaine de la réforme de l'islam, justement.
Bien. Razika Anani, revenons au second point, à cette seconde question fondamentale qui est la définition même. Moi, j'ai quelques précautions à dire en parlant de l'islam, parce que je ne sais plus ce que c'est. En revanche, parlant du fait islamique ou de cette phénoménologie qu'on invoque en parlant de l'islam, pour vous, il y a déjà un problème majeur quant à la définition même et à cerner la notion qui sous-tend la compréhension du mot islam.
L'islam, c'est un mot qu'on utilise pour désigner la troisième religion monothéiste. Après, l'islam est-il un fait islamique? En effet, étant donné que l'islam, il existe dans la réalité des musulmans et même dans la réalité des autres qui ne sont pas musulmans. Donc, on peut le regarder comme un fait déjà sociologique. Mais l'islam en lui-même, c'est un terme qui existait et qui désigne donc, comme je viens de le dire, la troisième religion monothéiste.
Alors, si vous dites que c'est la troisième religion monothéiste de l'abrahamisme, alors en quoi c'est une question fondamentale que de le définir ?
Personnellement, je ne trouve pas de difficulté à le définir. Comme je viens de le dire, pour moi, c'est la troisième religion monothéiste. Et après, évidemment, la question se pose quand on essaye de réfléchir de quel islam on parle. Est-ce qu'on parle de l'islam tel qu'il a été révélé ? Est-ce qu'on parle de l'islam après la révélation, ce qu'il est devenu après la révélation, c'est ce que je dis dans le livre. Il y a l'islam révélé. Selon la croyance musulmane, c'est l'islam tel que Dieu l'a révélé au prophète Mohammed. Et après, il y a l'islam que j'ai appelé l'islam construit. C'est tout ce travail qui a été fait et qui rentre aussi dans l'islam, dans la conception de l'islam que nous avons de cette religion. Mais donc, on peut dire qu'il y a une définition globale de l'islam. C'est la troisième religion monothéiste. Mais après, c'est vrai, si on essaye de le voir dans la réalité, quand on parle, pour savoir de quel islam on parle réellement, ça peut poser, en effet, problème. Est-ce qu'on parle, comme je viens de le dire, de l'islam qui a été révélé ou d'islam qui a été la partie humaine qui a été donc construite par la pensée?
Oui, il se trouve que des islamologues essayent de distinguer ce qu'on appelle le moment mohammadien en distinguant effectivement le fait coranique en tant que tel, la révélation en tant que tel, et puis le fait islamique qui a été une longue et lente construction humaine par la suite. Ma question, c'était, elle rejoint un peu ce que nous disions au début de notre entretien, c'est que votre seconde question majeure, c'est qu'est-ce qu'on entend par islam ? Est-ce une spiritualité, une élévation spirituelle, ou est-ce une organisation sociale, ou est-ce aussi une politique qui régule le comportement des hommes dans la cité ? C'était ça,
oui.
Si j'ai bien compris,
oui.
Ce qui vous préoccupe au plus haut point et qui taraude, c'est une question qui taraude beaucoup d'observateurs musulmans ou non musulmans.
Oui, comme je l'ai dit, il y a le terme islam qui désigne cette religion d'une manière générale. Et après, en effet, il y a à chaque fois le mot islam, dans quel sens on l'utilise. Est-ce qu'on l'utilise pour désigner l'islam tel qu'il a été révélé? Certains musulmans pensent quand ils parlent de l'islam, ils parlent même de la religion telle qu'elle est auprès de Dieu. Alors que l'islam a connu aussi, comme je viens de le dire, il a toute une histoire, il a été construit à travers aussi cette histoire. Il y a aussi l'islam, est-il une spiritualité ou une organisation sociale? Et après, il y a plusieurs islams. De quel islam on parle? Islam chiite, islam sunnite, islam ibadite, islam soufi. En effet, ça, ce sont toutes des questions qu'on se pose quand on parle de l'islam. Mais peut-être la question de l'islam entre la spiritualité et l'organisation sociale est l'une des questions qui ont beaucoup marqué l'histoire de l'islam et que les musulmans se sont posées d'ailleurs dès la mort du prophète. Moi, je dirais que cette question a été, je peux supposer qu'elle a été suscitée dès la mort du prophète lorsque Abou Bakr a mené les guerres d'apostasie contre certaines tribus musulmanes qui ne voulaient plus payer la zakat. Donc on peut considérer que c'est à ce moment-là que cette question a été vraiment posée. Et après cela, au 8e siècle, elle est devenue une une question problématique, car elle a divisé réellement les musulmans en deux doctrines. Celle qui pense que l'islam est une spiritualité que seule l'organisation ou le comportement social peut attester, peut témoigner, et ceux qui pensent que l'organisation sociale ne fait pas partie de l'islam, mais de l'organisation de la société, et que l'islam est une spiritualité avant tout.
Rappelons simplement que la zakat est cette aumône que certains qualifient de légale. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec la philosophe et islamologue Razika Adnani, et nous parlons de son ouvrage intitulé Islam, quel problème au singulier, et puis la suite étant les défis de la réforme. Donc nous poursuivons cet entretien dès la mort du prophète, avec ces guerres dites ou ces batailles contre les tribus qui ont abjuré leur religion pour des raisons mesquines. Pour certains, c'est parce qu'elles n'ont pas voulu s'acquitter de l'aumône. Pour vous, c'est le début de la question quant à la survie et aussi à l'inscription dans l'histoire ou l'articulation à travers des cultures de la tradition religieuse islamique.
C'est le début de la question, quel sens donner à l'islam ? Quelle est la nature de l'islam ? Est-il une spiritualité ou une organisation sociale ? Et cette question a marqué l'histoire de l'islam.
Elle a fait
de l'islam ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu après qu'il a été révélé. Certains, évidemment, c'est la dimension juridique, la dimension sociale qui prime, qui domine, car ce sont ceux qui avaient une conception juridique de l'islam qui ont gagné cette bataille, si on peut l'appeler comme ça, cette bataille intellectuelle qui concernait la nature de l'islam et le sens qu'il faut donner à l'islam, mais aussi la définition du musulman.
Oui, sans vouloir aller voir ce qui se passe ailleurs, mais dans les deux autres religions sœurs, jusqu'à la modernité, jusqu'à l'Aufklärung, jusqu'aux Lumières, les premières Lumières et les secondes Lumières, la société était aussi régie selon le désir politique de Dieu, pour parler comme certains qui pensent avoir scruté la volonté divine et de surcroît l'imposer à leurs semblables.
Je pense que ça fait partie de l'histoire de l'humanité, cette réalité. On ne peut pas la nier. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Je pense que l'être humain ou les sociétés ne vivent plus cloîtrées sur elles-mêmes. On vit de plus en plus avec l'autre. Donc le contact avec l'autre est devenu plus réel, plus permanent, plus spontané. Je dirais un contact plus présent, plus réel. Et donc, je pense que l'avenir de l'humanité nous oblige aujourd'hui à revoir cette façon d'organiser la société et de passer et d'aller vers une société plus rationnelle, mais aussi
qui sortira de la religion.
Pas forcément qui sortira de la religion, mais qui ne sera pas, les relations sociales entre individus ne seront pas organisées selon les règles de la religion. Il faut aller vers d'autres règles, des règles issues de l'intelligence qui permettent à tout le monde de vivre ensemble. Pour dire les choses clairement, aller vers une laïcisation de la société, une séparer la religion de la politique. Je pense que cela ne concerne pas que les sociétés occidentales, les sociétés musulmanes aussi, si on peut les appeler comme ça. Aujourd'hui, il vaut mieux les appeler, ou il est plus peut-être plus correct de les appeler les sociétés à majorité musulmane que des sociétés musulmanes, car même ces sociétés-là, aujourd'hui, beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas musulmanes vivent parmi dans ces sociétés, mais aussi les musulmans eux-mêmes ne suivent pas tous la même école ou le même islam, si on revient à l'islam qui est pluriel. Donc, afin d'éviter tout problème entre les différents islams, entre les musulmans et les autres, je pense qu'il faut aller à une autre façon de voir la religion et de voir aussi l'organisation sociale. Il faut aussi rappeler une chose, la religion est faite dès le départ pour apaiser les angoisses existentielles de l'être humain. Et aujourd'hui, si la religion devient une organisation sociale, un moyen de faire pression sur l'autre, la religion sort de sa finalité, de son objectif vers autre chose. Elle va même à l'encontre de l'objectif pour lequel elle a été créée, elle a existé. Donc, autrement dit, au lieu d'apaiser les angoisses, elle va ajouter ou rajouter d'autres angoisses. Donc il est important que la religion revienne à son rôle premier, qui est une spiritualité tout d'abord, mais aussi qui est là pour nous apaiser et non pas pour nous angoisser et nous faire peur un peu plus que ça.
Comme on reconnaît l'arbre à ses fruits, on reconnaît une religion valide et saine lorsque ses adeptes sont plutôt épanouis et apaisés, s'ils sont dans l'obsession de la norme, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou dans une approche culpabilisante, c'est-à-dire avec un dieu tortionnaire qui fait périr par le feu de l'enfer ceux qui n'obéissent pas à ses commandements, c'est qu'il y a un véritable problème.
Quand les gens tuent au nom de la religion, quand les gens rejettent l'autre au nom de la religion, quand eux-mêmes sont écartelés entre un passé auquel ils pensent appartenir ou devoir appartenir.
Et qu'ils pensent qu'il était glorieux,
mais aussi ils ont le devoir de lui appartenir, alors que en même temps, ils appartiennent à un présent, donc ils sont un peu divisés entre les deux, ce qui crée évidemment... souvent, ces gens-là, ils ont même cette culpabilité d'appartenir au présent, d'appartenir à leur société, d'appartenir à leur monde. Donc, ils le rejettent. Ils le rejettent et ils veulent repartir dans le passé. Et évidemment, quand on arrive à cette situation, il y a sûrement un problème.
Et ça passe par déjà un travail d'apaisement, de pouvoir rasséréner. Donc, on est plus dans la psychologie sociale que dans l'exégèse simple.
On est d'abord dans remettre la religion dans son, lui redonner son caractère naturel et son rôle premier, celui d'apaiser et non pas de faire peur et de produire peut-être ou de provoquer des guerres et des tensions entre individus. Et ensuite, oui, ce travail, il se fera évidemment sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan psychologique. C'est un tout.
Et que diriez-vous à ceux qui disent que dans la tradition religieuse elle-même, et en l'espèce dans la tradition islamique, il y a ce qui se prête à ce que des idéologues, des aventuriers, des manipulateurs, des sermonnaires, doctrinaires, qui sans scrupules mobilisent, manipulent, instrumentent ou instrumentalisent tout cela pour d'autres fins que spirituelles?
Je pense que la religion musulmane a une histoire et il faut reconnaître cette histoire. Donc oui, on peut trouver dans le Coran certains versets que certains utilisent en effet pour leurs propres intérêts. Mais je pense aussi qu'on peut aussi trouver dans la religion beaucoup d'éléments aussi qui nous permettent de dépasser tout ça et d'aller vers autre chose. Mais aussi, je pense que le premier travail doit se faire au niveau de la raison et de la pensée et de l'intelligence. Réfléchir autrement, regarder la religion autrement. Et je pense que c'est cette intelligence-là qui prend en considération la religion mais aussi la réalité historique et la réalité présente des êtres humains, des musulmans. C'est tout ça qui nous permettra peut-être d'aller vers une autre façon d'aborder la religion.
Razilka Adnani, le débat est quasiment sans fin sur ces questions. Prenons un exemple, celui du Coran créé ou incréé. Pour vous, cette question est tranchée ou fait-elle encore débat de nos jours en contexte islamique?
Pour beaucoup de musulmans, elle est tranchée. C'était une question importante dans l'histoire de l'islam, dans la première période de la pensée musulmane. C'est une question qui a été suscitée par la question de la pensée, la place qu'il faut donner à la pensée. Car ceux qui ont forgé la théorie du Coran incréé, ils l'ont forgé, ils l'ont tissé, cette théorie, justement dans l'objectif de l'utiliser comme argument pour dire que tout est révélé et que tout est dans la révélation, qu'on n'a pas à réfléchir. Et ceux qui ont forgé aussi et tissé la théorie du Coran créé voulaient faire le contraire, montrer que le Coran s'inscrit dans la réalité historique des musulmans et que la pensée humaine doit avoir de la place dans le domaine surtout juridique. Donc pour eux, la révélation ne suffit pas. Aujourd'hui, est-ce que ça a été tranché? À partir déjà du XIIe siècle, les musulmans ont pratiquement tranché pour la théorie du Coran incréé. D'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, même si elle influence toute notre réflexion au sujet de l'islam et du Coran. Donc il faut déjà remettre, quand on remet la question de la pensée, la question épistémologique, la question de la pensée et de la révélation comme source de connaissance, la question de la théorie du Coran créée ou incréée sera remise en question automatiquement. Donc je pense, oui, il faut remettre...
Mais ce nœud gordien qu'il faut trancher, on le tranche dans quel sens? Même si je connais votre réponse, c'était pour vous l'entendre dire. Donc la révélation en tant que telle, et, ou le Coran pour faire simple, est-il une création ou est-ce que quelque chose qui est co-naturel à Dieu et c'est donc une parole incréée?
Moi, je préfère vous donner la réponse des Mu'tazilites.
Cette école des rationalistes, les premiers rationalistes tradition islamique. D'accord.
Voilà. Pour eux, le Coran est créé. Le Coran qu'on touche, le Coran que les musulmans touchent, lisent, et ce qu'ils ont entre les mains comme livre, celui-là, pour eux, il est créé. Mais cela ne veut pas dire que tous les Mu'tazilites rejettent l'idée qu'il puisse y avoir un Coran auprès des dieux. Mais pour eux, ce n'est pas celui que les musulmans ont reçu, ce n'est pas celui qu'ils ont entre les mains, qu'ils lisent et qu'ils touchent. Car tout simplement, pour que l'humain soit capable de lire ce livre, pour que ce qui existe dans les livres soit accessible à l'intelligence humaine, il faut que ce livre soit inscrit dans la réalité humaine. Alors que le livre qui est auprès de Dieu, c'est un livre quand même qui a c'est un qualificatif de Dieu. Donc, il est au-dessus de la pensée humaine et de son intelligence. Pour les Mu'tazilites, si le Coran est incréé, car les règles qui existent dans le Coran sont faites pour une période donnée et une époque donnée. La question qui se pose dans ce cas, c'est la question de l'immuabilité des règles coraniques. Pour les Mu'tazilites, l'immuabilité s'inscrit dans l'esprit des lois et non pas dans les lois elles-mêmes. Donc, ce Coran-là qui existe auprès de Dieu, c'est un Coran qui contient justement l'esprit des lois, qui dépasse toutes les lois particulières, toutes les lois qui sont liées au temps et au lieu.
Razilka Adnani, je ne pensais pas que j'allais vous poser cette question, mais c'est cette réponse qui m'y amène. D'abord, le fait de parler d'un Coran dans l'empyrée céleste auprès de Dieu, c'est le Coran qui en parle, donc c'est une autoréférence. On peut s'inscrire dans cette logique-là d'un Dieu qui parle aux hommes et qui a sa parole qui sera consignée, qui sera faite livre et que nous avons entre les mains. Mais en tout cas, sa parole qui lui est consubstantielle au co-naturel se trouve sur une table gardée dans les cieux. Mais le second point, c'est à propos de ce caractère immuable, atemporel, anhistorique, universel de cette parole. Simplement, en ce qui concerne la partie prescriptive ou juridique, elle est plutôt telle qu'elle a été révélée, c'est articulée dans une culture donnée. Mais l'esprit des lois, ça demeure. Alors, est-ce que là, en produisant du droit et en fabriquant de la loi, on est tenu de s'adosser à un principe métaphysique ou à une référence révélée de nos jours?
Tout à l'heure, j'ai dit que moi, je pense qu'il faut plutôt aller vers une société sécularisée. Il faut séparer la religion de la politique. Je pense que les Mu'tazilites ont existé à un moment donné de l'histoire où la société s'organisait selon les lois de la religion. Aujourd'hui, on n'est plus au Xe siècle. Aujourd'hui, on est loin de cette période. Et je pense que l'humanité est passée à une autre étape. Et les musulmans ont besoin de cette autre étape. Il faut aller vers cette étape-là.
D'accord. Donc, passons à ce que vous appelez à juste raison le regard critique nécessaire. Et puis, vous mettez en exergue toutes les contradictions du littéralisme. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ces contradictions et de ces failles?
Le littéralisme, concernant les lois juridiques, déjà, ils ont commis beaucoup de contradictions, mais j'aimerais parler de la contradiction peut-être que je considère la plus grave.
Et si la plus flagrante, oui.
C'est celle d'aller justement à l'encontre du principe de l'unicité lui-même. L'islam est fondé sur le principe de l'unicité qui dit que seul Dieu est parfait et seul Dieu détient le savoir absolu, alors que les littéralistes, les conservateurs considèrent que le savoir de certaines personnes ou leur savoir à eux est parfait et qu'on n'a plus le droit de le critiquer ni de le dépasser. Donc là, je pense que c'est une contradiction avec le principe de l'unicité. Donc il faut revenir au principe de l'unicité. Pour les croyants, si seul Dieu est parfait, eh bien tout le travail que nous avons fait aujourd'hui ou que les musulmans ont fait aujourd'hui dans le domaine de la compréhension des textes et dans le domaine juridique est... Il faut le regarder comme un travail humain, qui est un travail relatif et qu'il faut revoir et que surtout nous avons le droit de revoir. Ce principe de relativiser la connaissance est un principe scientifique, mais aussi je pense qu'il s'accorde très bien avec le principe de l'unicité. Donc pourquoi pas l'utiliser pour aller vers une connaissance plus relative du savoir humain qui concerne les textes religieux.
Alors, il se trouve qu'à travers l'histoire, il y a eu quelques savants, à ce moment-là, on parlait même de grands érudits à la connaissance encyclopédique, qui avaient cette humilité de dire que finalement, nous ne savons que rien, et ils finissent toujours leurs travaux et leurs cours, leurs leçons, leurs discours, par cette formule rituelle « et seul Dieu est plus savant ». Et il se trouve que de nos jours, il y en a un qui a imbu de leur personne, il y en a quelques-uns qui sont infatués de leur connaissance et ils pensent qu'ils se sont substitués, si je vous comprends bien, à Dieu. Et donc là, il y a une altération à l'unicité de Dieu. Et donc, premier paradoxe, première contradiction, la tradition religieuse islamique prône l'unicité de Dieu et vous avez des hommes qui se hissent au niveau divin de par leur prétention de connaître ce que connaît Dieu.
Oui, justement, et dans le livre, j'ai cherché à comprendre d'où vient justement cette sacralisation du savoir humain quand il s'agit des textes religieux. Et justement, cette sacralisation vient du fait que ceux qui prônent l'idée que seule la révélation est source de connaissance, à un certain moment de l'histoire de la pensée humaine, se sont retrouvés un petit peu dans une forme d'impasse. Parce que dès le départ, ils ont déclaré que la pensée n'était pas une source de connaissance et que tout était révélé et que tout est dans les textes. Donc, seule la révélation est source de connaissance. Mais en même temps, ils ont interprété les textes, ils ont effectué ils ont extrait les règles juridiques, ils ont mis en place des méthodes dans le travail juridique et dans le travail exégétique. Ils ont aussi mis au point des théories théologiques. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait, alors qu'en même temps, pour eux, seule la révélation est source de connaissance. Cette contradiction, comment sortir de cette contradiction? Comment sortir de cette impasse? Ils sont arrivés à une solution que la seule manière de sortir de cette impasse, de déclarer que ce travail a été fait par certaines personnes, qu'on appelle aujourd'hui les salafs, qui ont certaines qualités intellectuelles, morales et psychologiques que les autres êtres humains ne peuvent pas avoir, et ces qualités ont fait ou leur ont permis d'accéder au savoir révélé. Donc leur travail en réalité ou leur pensée ne fait que révéler ou refléter le savoir tel qu'il a été révélé. Donc pour eux, tout ce travail de ces personnes-là, de ces salafs, n'est qu'un travail qui est dont l'objectif, c'est un travail humain, mais la pensée n'intervient pas. Elle n'est là que pour refléter de la manière la plus juste le travail divin. Évidemment, quand on arrive à cette conclusion, on relativise plus le savoir de ces anciens, on le considère comme un savoir parfait, un savoir qui est équivalent de celui de Dieu, du savoir divin, et on se permet plus après de les critiquer. Voilà comment j'ai essayé de chercher toujours à aller, à revenir vers la problématique principale et essayer de comprendre comment cette problématique a influencé toute la pensée musulmane hier et encore aujourd'hui. Elle continue encore aujourd'hui de l'influencer. Donc, pour moi, le salafisme est né justement lorsque les conservateurs et ceux qui ont pris une position contre la pensée comme source de connaissance, lorsqu'ils se sont retrouvés dans une impasse, et ils ont cherché comment sortir de cette impasse. Ils ont trouvé le salafisme comme une meilleure théorie, une meilleure doctrine pour sortir de cette impasse.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de l'islam. Quel problème ? La réponse vient avec Razika Adnani, philosophe et islamologue, membre du conseil d'orientation de la Fondation d'Islam de France, en parlant des défis de la réforme. Razika Adnani, vous dites que la réforme de l'islam peine à se faire. Donc, pourquoi peine-t-elle à se faire? Quelles sont les raisons de ce retard et pourquoi est-ce qu'elle ne se réalise pas?
Parce que la grande majorité de ceux qui ont porté cette réforme n'ont pas été, je dirais, assez courageux pour lui permettre de se concrétiser. Et ils ont toujours cette réticence envers la pensée, envers l'intelligence, envers la raison, qui fait que, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils terminent toujours leur discours avec des limites, avec des conditions et des limites qui justement limitent le travail de la pensée, le travail de la raison. Et donc, dans ce genre de conditions, on ne peut pas vraiment concrétiser le projet de la réforme.
Mais si vous mettez le doigt sur cette Incapacité, c'est déjà un début de réponse, donc il suffit, c'est facile de le dire à ce micro, s'il suffit d'avoir cette audace et cette hardiesse, donc ce courage, et de transgresser ses limites et y aller. Donc le début a commencé, donc la réforme peine-t-elle à se faire, ça vous l'avez dit, mais la sortie de crise commence-t-elle ou pas encore?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent. Les musulmans se posent beaucoup de questions, justement. Mais on ne peut pas vraiment savoir ce que toutes ces questions donneront demain. Je peux dire tout simplement qu'aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de questions qui se posent.
Alors, en enlevant le barrage contre la raison, comme vous dites si bien, en redonnant à la pensée sa noblesse et sa pertinence, tout cela commence déjà par ne plus croire que toute innovation est un égarement et que tout égarement est blâmable.
Déjà, parce que ce principe a été mis en place par justement les littéralistes, les conservateurs, les salafistes, pour bloquer tout travail de la pensée. Et tout travail et toute idée nouvelle est considérée par donc le salafisme comme une sortie de la religion.
Et sortie de la religion, pas au sens de Marcel Cauchet, c'est-à-dire c'est une sorte d'hérésie ou d'apostasie.
D'hérésie ou d'apostasie, oui. Justement. Et il faut justement remettre déjà ces principes en cause. Pour les remettre en cause, il faut savoir comment ils ont été mis en place et dans quel but. Et il y a aussi l'autre principe, que la religion est une question de cœur et non de raison. Là aussi, c'est un principe qu'il faut remettre en cause. Il y a aussi d'autres principes.
Dans quel sens, pardon? C'était privilégier que c'est une religion de cœur ou c'est une religion de raison?
Privilégier que la foi en elle-même, croire qu'un Dieu existe, je pense que c'est une question de cœur. Mais ce n'est pas simple de le dire. C'est aussi la raison qui accepte que le domaine de la foi ne lui appartient pas, que le domaine de la foi, elle doit le céder ou elle doit se retirer pour le laisser au cœur et aux sentiments. Donc ce n'est pas une raison qui est incapable d'aborder le domaine de la foi, mais c'est une raison qui est tout à fait sereine et qui sait que certaines, comme dans le domaine des mathématiques, il y a certaines limites où la raison s'arrête. Elle dit... Pour moi, ça, c'est un postulat, je ne vais pas au-delà. Donc, c'est pareil.
Ou tout le débat sur le théorème de Gödel quant à la complétude des mathématiques, mais ça, c'est un autre domaine.
L'organisation de la société, l'organisation des relations humaines, je pense que là, la raison, elle a son mot à dire et elle doit intervenir.
Alors, nous nous acheminons petit à petit et nous arrivons au terme de l'émission. Je voulais vous poser deux autres questions. Quand vous parlez de ces réformistes qui bloquent la réforme, alors le font-ils sciemment, inconsciemment, ou par faiblesse ou indigence intellectuelle, ce résultat, ce diagnostic d'une réforme bloquée, alors qu'on s'autoproclame réformiste?
Il y a un peu de tout. Il y a des facteurs psychologiques, la crainte, la peur. Il y a des facteurs aussi sociologiques. Il y a des facteurs historiques. Si je prends comme exemple, par exemple, Mohamed Abdou, il est considéré par une grande partie de musulmans comme un grand réformiste.
Il est mort en 1905, donc au tournant du XXe siècle.
Il suffit de lire les livres de Mohamed Abdou pour réaliser ou pour découvrir qu'en réalité, il n'était pas aussi réformiste que ça. Et que Mohamed Abdou a essayé sur certains plans de faire changer les choses, mais il reste un conservateur, un salafiste et un conservateur. Donc ce genre de réformiste, et on peut donner beaucoup d'autres exemples, qui toujours, ils se mettent à eux-mêmes des limites dans leur travail, et évidemment, ils ne peuvent pas aller vraiment vers une réforme de l'islam que les musulmans attendent d'eux. Mais en effet, parfois, le poids de la société est tellement fort qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, il y a la peur d'être pointés comme des apostats. Ou il y a aussi, tout simplement, toute cette culture qu'on a enfouie au fond de nous depuis des siècles et qui est difficile à changer. Et c'est difficile de changer cette culture et de changer tout ce patrimoine et ce qu'on a hérité, intellectuel, que nous avons hérité.
Alors, vous avez évoqué une grande figure emblématique du réformisme islamique, de la Nahda, du Islah, comme on dit en arabe, de cette réforme, Mohamed Abdou, mais c'est davantage aussi son disciple Rachid Reda qui a infléchi vers ce qu'on appelle maintenant le salafisme, dont un salafisme, vous l'avez affublé de l'épithète moderne. Donc, y a-t-il un salafisme moderne? Et ça ne s'apparente pas à un oxymore, ce n'est pas une contradiction que de parler d'un salafisme moderne?
Pour moi, non, parce que je prends le salafisme dans son sens épistémologique. Que signifie le salafisme? Le salafisme, en réalité, est une théorie donc épistémologique qui signifie que le savoir, la vérité existe chez les anciens. Donc, un moderniste qui défend la laïcité, qui défend la démocratie, qui défend par exemple l'égalité homme-femme et qui va chercher les arguments de ces idées-là chez les salafs, chez les anciens, est pour moi un salafiste moderne ou un moderniste salafiste.
Plutôt dans ce sens-là.
Voilà. Il veut un moderniste salafiste. Il veut moderniser la société, il défend des idées modernes, mais dans la posture intellectuelle elle-même, il reste salafiste, car il pense que seuls les salafs peuvent lui donner l'argument que ce qu'il dit est vrai. Donc seul le savoir du salaf est pour lui le critère de vérité. Donc il va chercher dans les salafs, dans le savoir des salafs, la preuve du bien fondé de ses idées. Pour moi, ces gens-là, c'est des modernistes salafiste. Contrairement aux salafistes traditionnalistes, ceux-là, ils ne veulent rien changer, mais aussi, ils vont quand même chercher le bien fondé de leurs idées dans le passé. Donc, il faut déjà sortir de ce salafisme, dire qu'on peut avoir de nouvelles idées qui sont justes et qui ne sont pas forcément connues par les anciens.
Bien entendu, et être moderne, c'est suivre son mode et ne pas courir après la mode. Dans un temps, on se hisse aux exigences de son temps et dans l'autre, on risque d'être aussi dépassé. Merci, Razika Annani, puisque nous finissons ensemble cette émission. Je rappelle que vous êtes philosophe et islamologue et votre dernier ouvrage s'intitule « Islam, quel problème ?» Vous le dites au singulier et vous parlez aussi de ces défis de la réforme. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Valérie Lavalard. La réalisation est assumée par Franck Lilin.
Thank you.